assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers. Grâce à Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver derrière ce micro. Ce sont 1400 opérations de chirurgie esthétique qui sont réalisées chaque jour en France par près d'un millier de chirurgiens plastiques. Certaines sont prises en charge, d'autres pas. Embellir, rajeunir, transformer, mais aussi reconstruire un sein après un cancer, une mastectomie ou retendre la peau après une perte de poids importante. La chirurgie esthétique et réparatrice est en plein essor. Les interventions augmentent à un rythme régulier, plus de 8% chaque année, un marché lucratif. Il dépasse les 8,5 milliards d'euros au niveau mondial, 12 milliards à l'horizon 2020, avec d'importantes disparités régionales. Près de 18% des interventions pour les seuls États-Unis, devant le Brésil, 10%. La France, 8e rang. Et le premier pays du continent africain, eh bien, c'est l'Égypte, 14e. L'Afrique du Sud est 24e. Côté patient, ce sont, à une très large majorité, des patientes. 82% de femmes qui ont recours aux bistouri, laser et injections pour modifier en premier lieu leur poitrine, se débarrasser ensuite d'amas graisseux par liposuction ou retendre les paupières. Dans Priorité Santé, c'est vrai, on s'attache d'habitude à parler des opérations qui sauvent, mais au regard de ces chiffres et du retentissement qu'a cette discipline sur nos sociétés, impossible de faire comme si elle n'existait pas, car la chirurgie esthétique, si elle a ses ratés, ses excès, ses incarnations les plus extravagantes, c'est aussi une spécialité de haute technicité qui soulage, apaise et dans de nombreux cas aide à dépasser des traitements douloureux pour le corps comme pour l'esprit. Et on va le voir dans cette émission, toute chirurgie comporte des risques, y compris celle qui n'est pas imposée par la maladie, mais par une volonté de changement. Avec nous en studio, le docteur Vladimir Mitz, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chirurgien plastique à Paris, vous avez signé l'ouvrage « Chirurgie esthétique pour ou contre » aux éditions Flammarion. En deuxième partie d'émission, nous parlerons avec votre confrère tunisien, le docteur Sami Mazoud. Il est chirurgien esthétique à Tunis. Nous serons en ligne tout à l'heure avec lui. Et en fin d'émission, on retrouvera notre bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec à la une la fièvre jaune au Brésil qui atteint l'état de Rio après avoir touché Sao Paulo. Et puis la décontamination du site des déchets du Probo Koala à Abidjan, confirmée par l'ONU qui plaide pour le suivi médical des victimes de 2006. Le numéro de votre émission pour témoigner, poser vos questions, c'est le 33 84 22 75 75. Docteur Vladimir Mitz, aucun doute là-dessus à lire votre livre. Vous adorez votre profession et pourtant, dans cet ouvrage, vous ne cachez aucun de ces risques, aucun des ratés liés à la spécialité, à la chirurgie esthétique. Pourquoi ce choix de parler justement de ces risques ?
Tout à l'heure, vous avez évoqué les chiffres et l'augmentation de la médecine et de la chirurgie esthétique. Mais face à ces chiffres, moi, je voudrais remettre le patient ou la patiente. Parce que devant nous, nous avons quelqu'un qui souffre. Et cette souffrance est assez méconnue, maltraitée. Elle est maltraitée par deux catégories. D'une part, les médias, qui adorent les ratés. Et d'autre part, par des patients qui ne comprennent pas, pas des patients, par tout le monde, je dirais monsieur et madame tout le monde, qui se disent pourquoi faire cette chirurgie qui est inutile, parce que c'est une agression, et cela va contre l'idée que l'on doit se faire, je dirais, une raison de son corps, et ne pas le changer. Eh bien, ma profession, elle vise non pas à changer le corps par fantaisie, mais pour guérir un complexe. Elle a une part qui est thérapeutique. L'autre qui se voit dans la glace et qui souffre parce qu'il a un grand nez, il n'a pas suffisamment de poitrine, un adolescent, un garçon qui a des seins, une cicatrice hideuse telle que l'on peut la rencontrer chez les patients africains, des chevilles trop fines parfois qui rendent le port de jupe plus difficile parce que c'est une déformation que l'on constate dans certaines tribus. Tout cela entraîne un mal-être chez les patients ou les patientes, ils demandent une correction et c'est notre rôle de le faire. Il faut reconnaître qu'il y a des complications. C'est à nous aussi de les rattraper. Si j'ose dire, dans les ratés, il y a déjà rattrapé. C'est le rôle du chirurgien.
Alors, 20 millions d'interventions de chirurgie esthétique, vous le dites, docteur Vladimir Mitz, parce que à travers ces ratés, il y a des explications, il y a quand même une force de conviction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de banalisation de la chirurgie esthétique.
Surtout pas. D'ailleurs, en France, il y a au contraire une consécration de la chirurgie esthétique à deux niveaux. D'une part, il y a un délai de réflexion, il y a une première consultation où nous devons expliquer quel genre d'opération nous pouvons faire. Aussi, ces complications, on n'ose parfois pas trop les dire à voix haute. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est aussi pour mentionner par écrit toutes les complications, tout ce qu'il peut y avoir de négatif, parce que c'est quand même très important que le patient le sache. Et donc, ce délai de réflexion doit aussi conduire le patient à se dire, est-ce que j'ai confiance dans ce chirurgien? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Eh bien, somme toute, si le patient ne se fait pas opérer, c'est qu'il arrive à être heureux dans sa peau, et c'est tant mieux pour lui, et c'est tant mieux pour nous.
Et vous parliez tout à l'heure justement de cette image de la société, un certain voyeurisme hein, qui met en avant par magazine, site internet interposé, le pire de la chirurgie. Pourquoi justement ce regard, pourquoi cette volonté hein, par image interposée de nuire?
Eh bien écoutez Caroline, je suis sûr que vous avez votre idée, chacun a son idée, pourquoi ce voyeurisme? C'est quand même une question qui est bizarre, pourquoi quand on tape raté de la chirurgie esthétique, on a tout de suite 300 000 clics, c'est vraiment beaucoup plus important que les bienfaits de la chirurgie esthétique. Et donc, je pense que cela vient de notre société qui est en pleine turbulence avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Asie, toutes ces images sanglantes qui font que nous sommes tous perturbés et que finalement, peut-être que le malheur des autres vous rassure sur le moindre malheur que vous portez vous dans votre vie quotidienne. C'est une explication comme ça, mais bon, finalement, c'est vrai que les ratés passionnent et nous, notre travail quotidien, c'est de les éviter et de les réparer.
Il y a une véritable dimension morale. D'ailleurs, dans l'opinion publique, une différence de perception entre l'esthétique et le réparateur, entre ce qui est lié à la maladie et à l'apparence, même si parfois les deux peuvent être directement liés. Justement, le chirurgien esthétique est-il toujours réparateur?
Quelque part, oui. On peut le dire, mais pas pour la sécurité sociale. Vous savez que, par exemple, en France, un certain nombre d'opérations sont prises en charge par la sécurité sociale, quand c'est vraiment de la chirurgie réparatrice. Il y a des opérations limites, comme les oreilles décollées, l'augmentation de seins complètement plats chez une jeune fille, la diminution de seins masculins chez le jeune adolescent, d'autres, ou bien les déviations nasales avec gêne respiratoire, prise en charge par la sécurité sociale.
Également aussi, quand il y a une forte perte de poids.
Aussi, ce sont les séquelles d'opérations bariatriques, mais toutes les opérations ne sont pas prises en charge dans ce cas-là. La plus importante, c'est la reconstruction du sein après cancer. Et on a même un petit problème, parce que si la sécurité sociale prend en charge la réparation du sein enlevé, c'est-à-dire la reconstitution d'un sein, on peut voir tout à l'heure comment on le fait, l'autre côté, la symétrisation de l'autre côté, peut parfois être plus ou moins prise en charge. À l'opposé, des opérations purement esthétiques, les plus importantes sont celles contre le vieillissement. La diminution des poches sous les yeux, les paupières, les liftings, toutes ces opérations sont considérées comme de confort, non prises en charge à la sécurité sociale et même taxées par l'État à 20% par une TVA, ce qui est quand même un peu gênant parce que ça veut dire que l'État est propriétaire de notre corps à 20% et ça personne ne le sait, on le dit pas. On essaie de lutter contre ça parce que nos prix sont trop importants en Europe par rapport...
Vous êtes considéré comme une industrie du luxe.
Oui, ben voilà, et c'est pour ça que beaucoup de patients vont à l'étranger dans un tourisme médical et chirurgical effréné qu'il faudra bien à un moment donné expliquer et limiter.
En tout cas, en France, les choses sont assez réglementées. La loi oblige, par exemple, le chirurgien à mentionner les principales complications qui peuvent arriver après une opération. Docteur Vladimir Mitz, vous citeriez quoi, vous, comme complications?
Nous avons deux complications qu'il faut bien expliquer aux patients. Les problèmes de l'infection et les problèmes de la cicatrisation. Au jour d'aujourd'hui, nous ne dominons pas les problèmes infectieux. Alors nous, on le voit à notre niveau après une opération. Pourquoi? Parce que les patients peuvent porter des germes à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'une antibiothérapie préventive ne va pas guérir de cela. Il va changer simplement la nature des germes. L'antibiotique va sélectionner des germes encore plus dangereux et tous les patients sont porteurs de germes.
Imaginons que quelqu'un d'immunodéprimé, hein, beaucoup de traitements aujourd'hui baissent nos défenses immunitaires, viennent vous voir. Est-ce que vous refusez d'opérer ou est-ce que vous allez prendre des précautions particulières, docteur?
Non, nous refusons d'opérer les patients qui présentent le moins de risques. Le slogan, s'il y a un risque, pas d'opération. C'est vrai aussi des problèmes cardiaques qui peuvent arriver à un patient. L'autre domaine, je vous disais, qui nous embête beaucoup, c'est les problèmes de cicatrisation. Au jour d'aujourd'hui, ne rêvons pas. On peut pas accélérer la cicatrisation. Il n'y a pas de Superman parmi les chirurgiens capable avec son rayon laser de braquer une lampe et quelques secondes après, la plaie se referme et elle est guérie. C'est pas vrai. On ne peut que diminuer les complications de la mauvaise cicatrisation. Et ça, c'est très important. Un de mes assistants, Patrick Knipper, qui part beaucoup en Afrique en ce moment, c'est qu'il peut opérer à l'air libre. C'est pas grave, il opère pas dans une ambiance totalement stérile, mais ils prennent les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de surinfection. Et donc, le respect de certaines règles hygiéniques peut suffire, en quelque sorte, à faire des opérations dans des bonnes conditions, même sur des terrains, sur des champs de bataille, dans la forêt. On peut faire des opérations en faisant un petit peu attention pour limiter l'infection. La cicatrisation, on ne la domine pas.
Parce que la cicatrisation dépend directement aussi de la qualité de la peau. Et dans ce domaine, eh bien, c'est une forte inégalité entre les personnes.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur comment se construit la cicatrisation. Mais les ouvriers tissulaires sont parfois un peu bizarres. Parfois, ils amènent trop de ciment. Alors, ça crée des cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. Parfois, au contraire, ils ne viennent pas. Alors, la cicatrice se crevasse. Parfois, la plaie est longue à cicatriser parce qu'il n'y a pas de facteur de cicatrisation. Bref, le problème de la cicatrisation doit toujours être mentionné au patient avant une opération.
Vous disiez tout à l'heure, réparer justement une cicatrice kéloïde, hypertrophiée, un petit peu dure comme ça, ça veut dire que s'il y a déjà eu un premier problème, on peut parfois améliorer les choses ?
Tout à fait. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, avec une de mes assistantes africaines, nous avions beaucoup étudié comment au mieux utiliser les thérapeutiques à notre portée pour lutter contre ces cicatrices kéloïdes. Et on avait donc comparé le traitement de la cortisone injectée dans la cicatrice à la radiothérapie qui était pratiquée dans notre hôpital, dans un hôpital de l'assistance publique à l'époque. Et la conclusion a été que le mieux, c'était quand même d'injecter localement des produits cortisonnés, qui sont dangereux par ailleurs, mais qui pour ce problème-là étaient utiles, puis éventuellement de faire une réduction de la cicatrice kéloïdienne.
Alors là, on parle, si je puis dire, de la peau, mais vous insistez dans votre livre sur le relationnel avec le patient, primordial avec la patiente, sur cet aspect essentiel, et vous prenez même une prise en charge conjointe sur le plan psychologique.
Oui, c'est un domaine pour lequel je me suis beaucoup intéressé. Pendant des années, j'ai consulté à l'hôpital avec une psychologue à mes côtés. J'ai écrit même un livre avec une psychanalyste, qui s'appelle SOS, Je n'aime pas mon corps, parce que cette dimension psychologique est fondamentale dans la relation patient-chirurgien. Nous ne faisons pas un métier comme les autres, parce qu'au départ, bien que notre but soit thérapeutique, la souffrance qu'ont les gens n'est pas vitale. Elle est simplement un complexe d'inconfort de la vie, mais qui peut être aussi poignant, aussi difficile à vivre que si c'était une grosse cicatrice sur le corps.
Merci docteur Vladimir Mitsa. On se retrouve dans quelques minutes juste après ce témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de Muriel Bessy, présidente de l'association ARCH, association des réussites et des ratés de la chirurgie esthétique. Elle a subi 6 opérations.
Lorsque j'étais jeune fille et avant mes grossesses, j'avais des seins superbes. J'ai allaité mes enfants pendant 9 mois et ma foi, mes seins après ont pris un sacré coup. Mais je ne m'en souciais pas, c'est la vie, c'est normal. Et puis un jour, c'était dans les années 80, il y avait une émission sur la chirurgie esthétique et c'était à l'époque des balbutiements de la médiatisation de la chirurgie esthétique. Donc j'ai vu cette émission et j'ai vu un chirurgien. Il m'a tapoté la joue en disant « vous allez retrouver vos seins de jeune fille ». Opéré en février, avril, mes seins étaient catastrophiques.
Et quand vous dites catastrophique, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'ils étaient en accordéon. Je ne pouvais pas rester avec des seins pareils. Donc, je suis retournée et il m'a dit, c'est comme ça. Hein. Quel âge vous avez? Je lui dis 40 ans. Il appelle sa secrétaire et il lui dit, à quel âge on vieillit? Elle lui dit, à 40 ans, docteur. Il me dit, vous êtes vieille. Affolant. Donc, je suis partie tête basse. À l'époque, on ne posait pas tellement de questions au chirurgien. Je ne savais pas quelle sorte de prothèse il allait mettre, la grosseur aussi. Je lui ai fait entièrement confiance. Forcément, j'ai dû recommencer. Et donc, la deuxième fois, un autre chirurgien a gonflé des prothèses qui n'étaient pas gonflables. C'était du n'importe quoi. Et ce n'est qu'en 1993 qu'enfin, j'ai rencontré un chirurgien qui m'a bien expliqué, qui m'a bien opéré, qui m'a changé les prothèses qui n'étaient pas gonflables et qui m'a mis d'autres prothèses. J'ai changé mes prothèses il y a 3 ans. Et là, j'ai retrouvé mes seins de jeune fille. Ma mamie a comme ils sont beaux.
Et ensuite, vous avez continué à modifier votre corps.
C'est vrai que j'avais les yeux extrêmement bridés. Et la rançon des yeux bridés, c'est les poches sous les yeux. J'ai sauté le pas et je suis allée me faire opérer d'une blépharoplastie inférieure. Mais le chirurgien a fait les 4 paupières. Paupières supérieures et paupières inférieures. Ça a été un ratage. Je suis restée pendant 1 an, je dormais les yeux ouverts. Il m'arrive de m'endormir devant la télé et mes enfants disaient « Est-ce que maman dort ou elle est réveillée ?» Je ne me suis pas découragée et je me suis dit « Je trouverai bien quelqu'un capable de me restaurer. » J'ai dû aller voir un autre chirurgien qui, lui, m'a fait un lifting temporal pour soi-disant fermer les yeux. En fait, de ce lifting temporal, j'ai une alopécie bilatérale, c'est-à-dire que j'ai perdu mes cheveux à droite et à gauche et on a dû faire une rotation de lambeaux pour que je puisse retrouver une chevelure correcte.
Combien de temps vous avez mis à cicatriser de ces opérations ?
Alors, j'ai mis 11 ans. 11 ans à faire et à défaire. J'ai été opérée tellement de fois que je préfère oublier. Mais je n'ai jamais désespéré. Mais je crois que je m'en suis bien sortie, puisqu'on me donne l'âge de mes enfants. Moi, ce que j'essaie, c'est d'effacer les marques du temps. Je n'ai pas envie de voir les marques de l'âge, parce que j'ai un esprit très jeune, je suis en excellente santé, et il faut qu'il y ait une synchronisation dans tout ça.
Et est-ce qu'il y a un phénomène d'addiction dans la chirurgie esthétique ?
Il peut y avoir un phénomène d'addiction parce que lorsqu'on a recours à la chirurgie esthétique, on épie le moindre défaut. Je comprends tout à fait les personnes qui pourraient être contre, c'est leur choix. Si ces personnes n'ont pas peur de vieillir et de mourir, moi je veux rester jeune, en bonne santé. Et puis le plus longtemps possible en vie.
Un témoignage recueilli par Raphaël Constant, docteur Vladimir Mitz. C'est fréquent ce genre de patiente multirécidiviste ?
C'est pas très fréquent, non, parce que, comme l'a très bien expliqué cette dame Muriel, elle a un goût profond pour la beauté. Elle est très narcissique, pas hyper narcissique, mais elle est narcissique. Et puis, il se produit chez elle, ce qui se produit chez nombre de nos contemporains. On garde tous dans la tête 40, 45 ans, 50 ans d'état d'esprit, mais voilà que notre enveloppe, tout doucement, se flétrit, et c'est assez insupportable, parce que cela entraîne des tensions dans la vie intime, et aussi dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Et donc, cette demande de correction, elle se produit maintenant de plus en plus souvent, et le moindre défaut qui apparaît après une opération, par exemple, un nouveau petit vieillissement, une nouvelle petite ride qui apparaît même après un lifting, préoccupe les patients, parce que c'est un peu comme une rayure sur votre nouvelle voiture, ou bien une petite tache sur votre nouveau vêtement, vous le supportez encore moins bien que si c'était un ancien vêtement.
On va reprendre cette conversation tout à l'heure après le flash d'actualité, mais en quelques mots, est-ce qu'il y a des cas auxquels on répond non, cette opération, je ne la ferai pas, en dehors des contre-indications médicales ?
Oui, cela nous arrive plusieurs fois pour chaque consultation, parce que le rêve des patients excède souvent tout ce que nous pouvons faire techniquement. L'idée pour eux, par exemple, j'ai maigri de 10 kilos et je voudrais qu'aujourd'hui vous me refassiez les seins, le ventre, l'intérieur des bras, l'intérieur des cuisses et pendant que vous y êtes, docteur, aussi un peu les paupières. Évidemment, c'est un programme qui pourrait prendre 14 heures d'opération, c'est exclu.
On se retrouve dans 3 minutes après les informations, docteur Vladimir Mitz. Vous pouvez nous appeler 33 84 22 75 75. On va continuer en deuxième partie de Priorité Santé, bien sûr, de parler de la chirurgie esthétique.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour la deuxième partie de Priorité Santé. Nous sommes toujours avec notre invité, le docteur Vladimir Mitz, chirurgien plastique à Paris, auteur de l'ouvrage « Chirurgie esthétique pour ou contre » publié aux éditions Flammarion. On l'a bien compris, docteur Mitz, cette opération, c'est aussi une relation qui s'instaure entre souvent une patiente et son chirurgien, avec justement deux tempéraments. Vous le disiez tout à l'heure, il vous arrive de dire non parce qu'on va demander des gestes chirurgicaux trop longs, enfin une refonte totale du corps, mais aussi quand certains, je dirais pas des critères esthétiques, mais par exemple, on pense aux opérations des seins quand on les demande, si on peut le dire, exagéré.
Oui, et puis on a même une pathologie très précise. On appelle cela la dysmorphophobie, qui est un trouble obsessionnel du comportement, un TOC, qui peut rendre les patients extrêmement dangereux pour eux-mêmes, voire pour nous, quand ils sont paranoïaques, ils peuvent tuer, ça s'est déjà produit, assassiner leur chirurgien par mécontentement ou furieux.
Ça ressemble à un thriller, oui.
Mais ce sont des patients qui ne seront jamais contents parce qu'ils ont une faille narcissique en profondeur qui ne sera jamais comblée. Et donc, quel que soit le geste pratiqué, quelle que soit la qualité de ce geste, il ne les satisfera pas et ils iront chercher sur eux-mêmes un autre défaut pour continuer de se faire opérer.
Et quand vous faites un entretien préopératoire, docteur Mitz, vous êtes capable de reconnaître ces personnes qui vont vouloir être opérées à l'excès ?
Mais Caroline, justement pas. C'est très difficile au cours d'une consultation, même prolongée. Regardez cet homme qui a tué sa femme et qui ensuite a pleuré pendant 3 mois et personne ne s'était rendu compte que c'était en fait lui
qui est accusé.
Et donc, quelque part, c'est très difficile au cours d'une consultation d'une demi-heure de savoir qui est l'autre. Donc, nous posons des questions. Moi, je fais remplir une petite fiche. On essaye d'aller dans l'histoire de ces patients pour mieux comprendre quelle est leur motivation et est-ce qu'ils sont solides. Je vous raconter une anecdote. La solidité du patient, parfois, peut être très, très étrange. Je me souviens avoir vu une femme de 45 ans arriver à ma consultation, d'une jolie femme, mais qui était un peu triste. Elle avait l'air comme si elle avait pleuré. Elle commençait à avoir des petits sillons au niveau, autour de la bouche. Et elle me dit, je viens de rompre. Ça va pas du tout. Je me sens pas bien. Je voudrais que vous me rajeunissiez. Je voudrais que vous me fassiez une opération. Et donc, moi, à l'époque, j'étais assez jeune, un peu immature, dirais-je. Et je lui dis, mais c'est hors de question. Vous êtes déprimé. Je vais pas maintenant vous me soumettre à une opération. Eh bien, elle est partie. Et je l'ai revue quelques mois après. Elle est revenue rayonnante, en pleine forme. Elle dit, écoutez, docteur, je vous ai bien aimé. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Je me suis fait opérer par quelqu'un d'autre qui a accepté de m'opérer. Ça m'a rendu en pleine forme. Écoutez, il n'y a pas de meilleur médicament que de se retrouver bien devant son miroir. Ça m'a changé la vie. J'ai pris une douche mentale. Quand elle m'a dit ça, ben, elle m'a beaucoup appris.
Mais vous dites en même temps dans votre livre, attention à ces femmes qui se font opérer, pour plaire à leur mari ou parce que leur mari leur a demandé, il faut d'abord qu'elles se plaisent à elles-mêmes.
Ça, c'est un refus absolu. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant, mon mari me dit que j'ai les seins tombants, ma fille me dit que mon nez, ça va pas. Évidemment, il faut refuser et discuter parce que l'opération que nous faisons, elle est faite pour faire créer de l'enthousiasme de vivre et du bonheur à la patiente ou au patient lui-même. C'est ça qui compte, c'est pas son entourage. C'est une opération finalement assez égoïste, mais qui rejaillit sur les autres. Et c'est pas l'inverse qui doit se passer.
Docteur Vladimir Mitz, est-ce que ces opérations collent à l'air du temps? Est-ce qu'il y a des choses qu'on demande aujourd'hui qu'on ne demandait pas il y a 5, 10, 15 ans?
Oui, il y a une transformation très importante de la demande. Je prends l'exemple de la chirurgie des seins. Il y a 20 ans, les femmes voulaient toutes se faire réduire les seins parce que c'était la mode d'avoir une petite poitrine haute qui tenait bien. Les implants mammaires que nous mettions faisaient un bonnet B, dirais-je. Maintenant, c'est changé. Les femmes veulent être plus voluptueuses. Elles veulent un bonnet C, voire un bonnet D.
À l'américaine, on va dire. Parce que
les américaines, c'est vraiment...
Que le volume des seins par pays, ça change. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important, par exemple, qu'en Europe.
Oui, c'est vrai. Mais déjà, en Europe, on constate qu'il y a une augmentation de la demande. La femme pulpeuse reprend un peu le dessus. Ce qui, pour nous hommes, c'est pas si désagréable que ça, dois-je dire.
Autre secteur où les choses ont changé, ce qu'on appelle la chirurgie de l'intime. Là aussi, docteur Vladimir Mitz, il y a des demandes qui ont changé dans ce domaine.
Oui, c'est une nouvelle dimension chirurgicale qui s'ajoute. Elle était connue depuis très longtemps, mais il n'est pas rare maintenant de voir des adolescentes qui viennent parce qu'elles ont une préoccupation. Les maillots de bain que l'on met sont très serrés, laissent parfois deviner des petites lèvres hypertrophiques. Elles peuvent être gênantes quand on fait du vélo parce qu'elles frottent. Arrivées à l'âge de la sexualité, elles peuvent gêner au niveau de l'acte sexuel. Il y a donc une demande qui se manifeste. Je voudrais à ce propos bien signaler que les chirurgiens esthétiques pratiquent cette chirurgie intime, mais que la reconstruction du clitoris chez les femmes qui ont été excisées, chose épouvantable, eh bien ça, ce sont toujours les gynécologues qui les pratiquent. Et je voudrais aussi, puisqu'on s'adresse à une population qui est mondiale maintenant, bien faire comprendre que l'excision, c'est quelque chose de terrifiant qu'on aura beaucoup de mal à réparer, parce que si c'était comme chez l'homme, c'est pas une circoncision, c'est pas de la peau que l'on enlève, on enlève l'organe, on enlève le clitoris ou une partie du clitoris. C'est donc quelque chose qui est terrifiant, mais il y a aussi des techniques de chirurgie réparatrice maintenant en ce domaine.
Et on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, puis à l'occasion de la journée mondiale de l'excision. Nous consacrerons bien sûr un magazine spécialement à cette question. Et si vous le voulez bien, vous restez avec nous, toujours un docteur Mitz. On va tout de suite partir pour Tunis.
Priorité santé sur RFI.
Tunis, où nous sommes en ligne avec le docteur Sami Mazoud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien esthétique, ancien président de la Société tunisienne de chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Quelles sont les opérations les plus fréquentes que vous pratiquez, docteur Sami Mazoud?
Ben écoutez, je pense que dans l'absolu, la demande est un petit peu la même un petit peu partout, et c'est sûr qu'elle elle varie un petit peu aussi en fonction de l'âge des patientes. Disons que pour les patientes les plus jeunes, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, il s'agit le plus souvent d'une chirurgie de la silhouette, évidemment. Alors bien sûr, avec en tête la liposuccion, c'est sûr que c'est la chirurgie qui est la plus demandée. Étant donné que voilà le surpoids, enfin pas tellement l'obésité, parce que la liposuccion n'est pas un traitement de l'obésité, mais en tout cas le petit surpoids, etc. Bon, c'est quelque chose qui est très courant actuellement avec les problèmes de mauvaise alimentation, etc. Donc ce qui fait que c'est la liposuccion vient effectivement largement en tête, et puis sinon ensuite c'est la chirurgie de la poitrine, l'augmentation mammaire essentiellement, et puis bon aussi la rhinoplastie, ça reste aussi une chirurgie qui est quand même assez demandée. Par contre, plus l'âge avance, et puis évidemment les préoccupations et les priorités changent, et donc du coup ça devient après plutôt de la chirurgie de rajeunissement au niveau du visage, donc lifting, mais aussi rajeunissement au niveau de la silhouette, je pense là à l'abdominoplastie, au lifting de la poitrine, etc.
Docteur Sami Mazoud, dans votre clinique, quel est le profil de vos patientes, hein, on l'a compris, là encore, essentiellement des femmes, justement, plutôt des jeunes femmes, des femmes d'un certain âge, une patientèle locale ou internationale?
Bah, écoutez, un petit peu de tout, effectivement, parce que là, en termes d'âge, là, vraiment, toutes les tranches d'âge sont représentées. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'un petit peu c'est dans les extrêmes que les choses, disons, changent, dans le sens où il y a de plus en plus de demandes émanant de patients très jeunes ou au contraire de patients très âgés, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Sinon, par rapport à la patientèle, bon, elle est effectivement tunisienne, mais aussi étrangère. La Tunisie est un pays qui est placé un petit peu à un carrefour entre Afrique, Europe, entre Méditerranée orientale et occidentale. Donc, ce qui fait que c'est un endroit où effectivement beaucoup d'étrangers viennent, que ce soit du sud comme du nord.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font des voyages spécialement pour se faire opérer chez vous, dans ce qu'on appelle un petit peu le tourisme esthétique, docteur Sami Mazoud?
Oui, tout à fait. Bon, bien que le terme, à mon avis, me semble pas tout à fait approprié, parce que ce n'est pas réellement du tourisme. Les gens ne viennent pas pour faire du tourisme, ils viennent pour se faire opérer, pour sachant que, bon, voilà, nous avons des structures qui sont de qualité, il y a des compétences chirurgicales, et puis, bon, disons que du fait de certaines raisons économiques, ça fait, enfin, du moins certaines raisons économiques font que les tarifs sont relativement intéressants.
Pour parler crûment, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. J'ai une question justement. Quand on voyage pour se faire opérer, il n'y a pas forcément le délai de 2 semaines de réflexion dont on parlait tout à l'heure avec le docteur Mitz. Alors comment ça se passe s'il y a soit quelqu'un qui n'est plus tout à fait sûr, soit même après une opération, une déception. Comment ça se passe?
Ben, par rapport au délai de réflexion, vous savez, les gens qui viennent jusqu'ici, en général, ils passent pas devant l'aéroport en se disant « Allez, ben tiens, puisqu'on est à l'aéroport, on va aller en Tunisie ». C'est un projet mûrement réfléchi. Les gens y pensent quelquefois une année, voire deux avant. Surtout que généralement, le plus souvent, ils se heurtent un petit peu à la résistance ou au désaccord de leurs proches en général. Donc bon, je vous garantis que les gens qui finissent par arriver jusqu'ici ont vraiment réellement longuement réfléchi. Ça, c'est sur le fond. Maintenant, sur la forme, les patientes ne viennent pas comme ça directement. Elles commencent par envoyer un dossier, enfin une demande, si vous voulez, de chirurgie. Il s'ensuit par retour un questionnaire, enfin un formulaire qu'ils remplissent, des photos qu'ils envoient, et puis ensuite il y a des échanges de mails, enfin en leur demandant qu'est-ce qu'elles veulent exactement, et puis on leur répond, voilà, a priori, sur ce qu'on voit, en disant bien sûr en utilisant toujours le conditionnel, parce que évidemment rien ne vaut l'examen clinique, mais au conditionnel, voilà, ben, il faudrait faire telle et telle chose. Puis là, du point de vue des délais, on est largement au-delà des 15 jours hein, de réflexion. Cela dit, effectivement, bon, il est possible, comme vous dites, que quelqu'un puisse entre-temps être un petit peu dans le doute, voire changer d'avis. Ou il arrive aussi que finalement les photos, parce que bon, les photos, quelle que soit la qualité des photos, comme je le disais, ça ne peut pas remplacer un examen. Et donc il est possible que finalement à l'examen, on s'aperçoive qu'à la consultation, on s'aperçoive que le problème n'est pas tout à fait...
Le projet n'est pas réalisable.
Voilà, éventuellement, le projet n'est pas réalisable. Bah, évidemment, dans ce cas-là, de toutes les façons, les patients sont toujours informés en leur disant, bon, il y a toujours une probabilité que l'intervention ne puisse pas se faire. Donc voilà, ça, vous le savez à l'avance. Bon, heureusement, c'est quelque chose qui est assez rare parce qu'on essaye de bien étudier les dossiers avant, justement pour éviter ce genre d'inconvénients. Mais c'est arrivé, il est arrivé qu'une intervention au dernier moment soit annulée parce que, bon, finalement, soit la demande n'est pas réalisable, soit ce qu'on propose comme résultat ne convient pas finalement ou ne correspond pas tout à fait à la demande du patient ou de la patiente. Et donc voilà, l'intervention est annulée.
Merci beaucoup, docteur Sami Mazou. Je rappelle que vous êtes chirurgien esthétique à la clinique de l'Espoir à Tunis. Retour à Paris avec vous, docteur Vladimir Mitz. Cette forme de chirurgie esthétique à l'étranger, comme ça on disait un tourisme esthétique, vous expliquez et argument à l'appui pourquoi vous n'y êtes pas favorable.
Non, d'abord je transmets toutes mes amitiés au professeur Mazout qui est un brillant chirurgien et l'ensemble des chirurgiens tunisiens pour beaucoup ont fait des études incroyables, ils ont même travaillé avec nous dans les
11
hôpitaux.
11 années d'études hein, pour votre spécialité.
Tout à fait, ils ont même travaillé dans les hôpitaux avec nous et c'est pas leur compétence technique qui est en jeu, mais il y a deux points très importants que je voudrais personnellement souligner. Le premier, c'est que ce n'est pas les chirurgiens qui organisent ces opérations, ce sont des tour opérateurs, parce que c'est un tout inclusif, c'est-à-dire séjour dans un bon hôtel, accompagnement, 8 jours éventuellement. Donc ça, c'est pas mauvais, mais finalement, c'est une pratique qui est commerciale, qui n'est pas liée à la réputation du chirurgien, qui est grande, mais c'est surtout les tour opérateurs qui l'organisent. Et le deuxième point qui me paraît très négatif, c'est que sur les statistiques qui ont été établies, notamment en Angleterre, il y a plus d'un patient sur 3 opérés à l'étranger qui doit subir une révision chirurgicale en Angleterre, ce qui augmente encore plus les coûts de ces opérations. Et donc il faut mettre en garde les opérateurs qui pratiquent ces opérations parce que ils doivent assurer les suites, et assurer les suites, ça reviendra plus cher aux patients. Donc messieurs et mesdames les patientes, réfléchissez-y à deux fois, statistiquement vous avez une chance sur 3 de payer beaucoup plus cher votre opération en cas de complication.
Et vous, docteur Vladimir Mitz, est-ce que justement réparer le travail mal fait des autres, ça constitue une part importante de votre activité?
Oui, c'est une part importante de mon activité parce que avec l'expérience, on devient un peu le chirurgien de l'impossible. Et je fais même un staff avec mes assistants. Nous regardons gratuitement les patients qui présentent des ratés pour savoir quelle est la meilleure solution pour eux, pour éviter qu'ils aillent courir à gauche ou à droite. Et on peut leur proposer des réparations en général satisfaisantes dans la grande majorité des cas. Dans raté, il y a rattrapé.
On parlait tout à l'heure des spécificités culturelles avec les bonnets de soutien-gorge, les États-Unis friands de choses plutôt volumineuses. En France, même si ça change un petit peu, jusque-là on était plutôt sur des bonnets assez moyens. Est-ce qu'il y a justement des spécificités nationales, régionales? Dans le livre, par exemple, vous expliquez qu'en France, en fait, on veut se faire opérer, mais on veut pas que ça se voit. Pourquoi ?
Oui, ben en France, il faut que le chirurgien esthétique soit invisible. On est présent dans le cœur de nos patientes satisfaites. On est parfois présent quand elles sont très insatisfaites, pas seulement dans leur cœur, mais aussi dans leur colère. Mais nous ne devons pas exister autrement que par un acte qui est invisible et qui donne satisfaction. Et c'est très différent de certains pays, par exemple aux États-Unis, quand j'y ai fait mes études, eh bien toutes les femmes de Miami voulaient que l'on voit qu'elles s'étaient fait faire un lifting, parce que comme ça, les copines se disaient, elle a pu se le payer. C'est pas du tout le cas en France. On a vu aussi le cas pour les lèvres augmentées. À un moment donné, il y a eu la mode des French lips, c'est-à-dire que les lèvres étaient devenues monstrueuses, et que tout le monde se disait dans la rue, mais t'as vu, celle-là, elle ressemble à un canard. Maintenant, en France, les médecins esthétiques et les chirurgiens esthétiques qui pratiquons ce genre d'intervention, on essaye de rester le plus proche possible du naturel.
Est-ce qu'il y a des régions où la chirurgie esthétique est totalement tabou dans le monde, docteur Mitz?
Oui, je pense qu'en Afrique notamment, l'idée de pénétrer le corps humain pour y faire un acte qui n'est pas nécessaire, pas recommandé par un gourou, un sorcier ou quelqu'un, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Et parce que, comme c'était le cas probablement aussi chez les musulmans, moins chez les israélites, chez les israélites, on peut pénétrer à l'intérieur du corps si on fait du bien psychologiquement. Et donc, ce corps qui doit rester indivisible et impénétrable reste présent dans certaines civilisations. Mais petit à petit, du fait de la mondialisation de l'information, de la télévision, eh bien, quand une femme a un complexe, quel que soit le continent ou le pays, elle a envie de le changer, de le modifier.
Et justement, on a une question d'une auditrice, hein, c'est Chris en Côte d'Ivoire. Elle nous dit, j'ai eu 2 césariennes, je n'arrive pas à perdre mon ventre. Est-ce qu'il faut passer par la chirurgie pour retrouver un ventre plat?
Ben malheureusement, ça dépend de son âge. Si elle a plus de 40 ans, probablement.
Et là, elle nous a pas précisé son âge dans
son
message.
Oui, parce qu'après 40 ans, les femmes stockent de la graisse en profondeur. Elles sont un peu comme une pêche. Elles stockent des noyaux de graisse qui ne partiront pas par le régime et pour lequel il faudra faire une liposuction ou un geste opératoire.
Alors, on va conclure sur cette période très particulière. Vous y accordez une large place dans votre ouvrage, docteur Vladimir Mitz. C'est l'adolescence, bouleversement physique, bouleversement mental, des demandes de plus en plus nombreuses, parfois complexe, et c'est complexe en fait pour tout le monde, hein, pour le jeune, mais aussi peut-être encore plus pour sa famille. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, vous n'êtes pas forcément défavorable à ces interventions.
Oui, c'est vrai. Personnellement, j'ai beaucoup milité pour qu'on écoute plus et mieux les adolescents, parce que j'ai été surpris de voir que des adolescentes ou des adolescents qui ont 15 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont très complexés par un nez qui est un nez trop proéminent, vont venir et ils vont se heurter à l'hostilité familiale.
Mais oui, parce que les parents pensent que le processus n'est pas fini, il faut attendre qu'on arrive à maturation,
oui,
etc.
Ou alors le père va dire à son fils, ton nez c'est un nez de famille, regarde, moi j'ai le même, je m'en porte bien. Et en fait, le fils, il n'est pas du tout d'accord parce qu'il le vit très mal. Et donc, il ne s'agit pas d'opérer tous les adolescents qui ont un complexe, mais je demande à ce que soit fait le consensus familial. C'est-à-dire, je demande à voir l'enfant ou l'adolescent avec un de ses parents, ou les deux, parfois le samedi, parce que c'est un moment plus pratique, et on en discute tous ensemble, et si les parents prennent conscience que le complexe est très profond, je leur dis non, il n'y a pas de risque à opérer le nez de votre fils, bien qu'il n'ait pas 16 ans ou 17 ans, si vraiment il est tellement gêné, les techniques actuelles sont sûres, et l'expérience a montré qu'on leur change positivement la vie. Ce sont des adolescents qui, 10 ans ou 15 ans après, quand ils me rencontrent, me disent à quel point leur vie a été changée. Ils ont même oublié comment ils étaient avant, et même leur famille a, au bout de 2 mois, oublié leur apparence avant l'intervention.
Vous arrivez à les faire changer d'avis ?
Tout à fait.
Cet échange touche à sa fin. Merci beaucoup, docteur Vladimir Mitz, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique à Paris, auteur de l'ouvrage « Chirurgie esthétique pour ou contre » aux éditions Flammarion. Et encore une fois, vous le dites, hein, la chirurgie, ça peut vraiment apporter un réconfort à celles et ceux qui en ont besoin. Mais tout ça avec, bien sûr, le contact humain. Indispensable.
Et oui, le contact humain, mais le chirurgien esthétique est celui qui doit avoir l'art de dire non pour une opération, mais de l'expliquer, d'expliquer pourquoi ce non.
Merci beaucoup, docteur Mitz, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Bulletin de santé.
On se retrouve donc pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine avec la une de ce bulletin de santé du vendredi 2 février. Au Nigeria, 21 cas mortels de fièvre de Lassa répertoriés en janvier par le Centre national de surveillance des maladies. Cette fièvre virale touche actuellement le tiers des États du pays. Maladie très grave pour les femmes enceintes, la fièvre de Lassa est associée à différents symptômes, fièvre, nausées, douleurs abdominales et dans certains cas des œdèmes, des hémorragies. À l'heure actuelle, aucun vaccin n'existe pour la prévenir. Au Brésil, c'est la fièvre jaune là qui touche depuis ce début d'année l'état de Sao Paulo, le plus peuplé du pays. 154 cas sur place, dont 52 mortels pour le seul mois de janvier. Et d'autres cas sont signalés dans l'état de Rio. En réponse, le gouvernement fédéral a lancé une campagne de vaccination ciblée, alors que la population s'inquiète d'un risque de pénurie de vaccins. Le reportage de François Cardona.
Depuis plusieurs jours, la pluie ne cesse de tomber et les habitants savent que cela va faciliter la prolifération de moustiques, vecteurs de la fièvre jaune. Les centres de santé sont débordés. Aline est pharmacienne. En 10 ans de métier, elle n'avait jamais eu autant de demandes.
Énormément de gens cherchent le vaccin contre la fièvre jaune, sauf que nous ne pouvons pas répondre à la demande, car les stocks de vaccins des pharmacies sont vides. En ce moment, les gens sont désespérés.
En début d'année dernière, la maladie avait provoqué 261 morts dans tout le pays. À la veille du carnaval, Rio de Janeiro se prépare à accueillir plus d'1,5 million de touristes. Edilson, patron d'un restaurant proche de la plage, est très inquiet pour l'image de sa ville.
Nous attendons énormément d'étrangers. Nous devons donc être encore plus attentifs. Nous dépendons du tourisme ici, car Rio n'est pas la seule touchée, mais presque tout le pays.
Face au risque d'épidémie, les autorités sanitaires conseillent aux touristes étrangers de se faire vacciner et d'éviter les zones boisées et tropicales de la ville où prolifèrent les moustiques. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Un rapport de l'ONU atteste de la dépollution des sites contaminés il y a 11 ans lors de la catastrophe écologique du cargo Probo Koala. Le déversement de 500 mètres cubes de déchets toxiques à Abidjan avait provoqué la mort d'au moins 17 personnes et des dizaines de milliers d'autres avaient été intoxiqués. Alors le programme des Nations Unies pour l'environnement juge que ces victimes de 2006 devraient bénéficier d'un suivi médical et c'est d'ailleurs ce que réclame la Coordination Nationale des Victimes des Déchets Toxiques, alors que l'entreprise suisso-néerlandaise Trafigura, elle, qui avait donc affrété ce bateau, le Probo Koala, n'a jamais été condamné par la justice. 210 millions de dollars pour financer à Bagdad un projet d'eau potable et de traitement des eaux usées. En projet, la construction d'un réservoir, aussi la réhabilitation de stations de pompage des eaux usées. Chantier lancé par la Banque mondiale pour la capitale irakienne qui souffre de coupures chroniques d'eau, d'épidémies aussi de maladies liées justement à ces contaminations. L'Irlande pourrait organiser à la fin du mois de mars un référendum pour assouplir les conditions de l'interruption volontaire de grossesse dans ce pays où l'avortement reste interdit, sauf à de très rares exceptions. Le droit à la vie de la mère et de son enfant à naître figure même dans la Constitution. Et c'est justement ce 8e amendement qui serait abrogé si le oui l'emportait. Le Premier ministre irlandais prône la compassion et la fin de l'hypocrisie qui conduit Dublin à, je cite, exporter ces problèmes puisque des milliers d'Irlandaises se rendent chaque année à l'étranger pour mettre fin à ces grossesses non désirées.
Nouvel élément en France dans l'affaire du lait infantile contaminé Lactalis. La bactérie détectée dans l'usine de lait de la Mayenne, dans l'ouest du pays, aurait été présente sur ce site depuis 2005 et serait à l'origine de deux autres épidémies de salmonellose chez des nourrissons. Aujourd'hui, le patron du numéro 1 mondial du secteur laitier reconnaît que la bactérie est bien la même que celle de 2005 et incrimine le laboratoire de référence qui était chargé de réaliser les analyses. Autre affaire de santé publique, toujours à la une en France, la nouvelle formule du médicament pour la thyroïde, le Levothyrox. Un dernier rapport a été remis mardi à l'agence du médicament et il chiffre à 17 000 le nombre de patients qui ont signalé des effets indésirables, de la fatigue, des maux de tête, des insomnies, des douleurs aux articulations et même des chutes de cheveux. Un nombre aussi inédit qu'inattendu d'après l'ANSM. La testostérone pourrait protéger les souris de la sclérose en plaques. Cette maladie inflammatoire et invalidante touche 3 fois plus de femmes que d'hommes. Et d'après une expérience qui a été menée pour l'Académie américaine des sciences sur des rongeurs femelles génétiquement modifiées, eh bien ce traitement à base de molécules d'hormones mâles a fait disparaître les symptômes de cette maladie auto-immune chez les souris. La testostérone a déjà été employée lors d'essais cliniques sur des hommes qui souffrent de cette pathologie neurologique, mais ses multiples effets secondaires freinent jusqu'à présent les expérimentations chez les femmes. C'est la fin de notre bulletin de santé. Et c'est la conclusion de Priorité Santé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Sigrid Azéroal, Didier Bleu. Lundi, nous parlerons du harcèlement fusionnel. Alors bien sûr, si vous voulez témoigner, posez vos questions. Notre numéro de téléphone, c'est le 33 84 22 75 75. Et vous pouvez réécouter Priorité Santé sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.